Et oui, alors que nous avons les yeux rivés sur les élections régionales des 20 et 27 juin prochains, qui verront s'affronter 8 candidats en Occitanie, on en oublierait presque que le même jour auront lieu les élections départementales où seront élus les conseillers départementaux des 13 départements de la région. Alors région et département, quelles compétences, quelle histoire, quelles interactions, mode d'emploi comparé avec mon invité ce matin. Bonjour Pierre Juston.
Bonjour.
Vous êtes doctorant en droit public à l'Université de Toulouse 1 Capitole, où vous êtes également chargé d'enseignement. Un grand merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous y avez répondu en plus avec beaucoup de réactivité, beaucoup d'enthousiasme. Merci. Vous allez ce matin à nous servir de guide, nous aider à y voir clair dans un sujet, vous me l'avez dit hors antenne, qui ne passionne pas. Hein. Vous allez tâcher de le rendre passionnant. C'est votre défi ce matin, Pierre Juston. Alors d'abord, cette question, on va élire le même jour conseillers départementaux, conseillers régionaux. Est-ce que ces élections départementales et régionales, donc, ont toujours lieu le même jour ?
Alors non, pas du tout. Les élections départementales et régionales n'avaient rarement eu lieu le même jour. C'est déjà arrivé il y a quelques temps dans l'histoire de la Ve République, mais en principe, depuis un certain nombre de temps, les élections départementales ont lieu à un autre moment que les élections régionales, parce que ce sont bien deux élections différentes dans le champ républicain.
Donc là, c'est le hasard ou il y a une stratégie politique à essayer de déceler derrière? Comment vous l'expliquez?
Alors il y a deux choses. Il va y avoir un élément plus pragmatique, on va dire, évidemment dans le contexte de pandémie, où il était peut-être plus simple d'appeler les électeurs une seule fois pour les élections départementales et les élections régionales. C'est le cas effectivement. Elles ont été reportées puisqu'elles devaient avoir lieu l'année dernière, puisque le mandat est de 6 ans. Donc là, on a grignoté quelques mois en plus. Et puis après, il peut y avoir effectivement une lecture stratégique, puisqu'il y a quelques années, il y avait des fuites, notamment auprès de l'Élysée, enfin de l'idée finalement de faire une élection de bloc local, c'est-à-dire carrément les trois élections locales, les élections municipales avec les élections communautaires, hein, les EPCI, les métropoles, etc., mais les élections départementales et régionales, tous le même jour, pour faire un pack local et appeler les électeurs à venir se prononcer 3 fois. Sauf que c'est difficile matériellement, évidemment, pour les mairies qui organisent, puisqu'il y aurait 3 urnes, vous imaginez. Déjà, là, ça va être matériellement difficile.
Là, ça va être compliqué, ouais.
Bien sûr, moi, je suis président de bureau de vote, ça va être très compliqué. On attend un petit
peu de documents. Alors, quelques infos, vous en avez ?
Bah, a priori, normalement, il y aura un président, comme d'habitude, dans chaque bureau de vote. Sauf que la nouveauté, c'est que le président, comme le secrétaire du bureau de vote, vont devoir s'occuper de 2 urnes avec deux équipes différentes et vont avoir la responsabilité de ce scrutin pour les 2 urnes. Donc, ça va être compliqué à 20h quand il va falloir voir les résultats dans les enveloppes. Ça va être toute une organisation difficile.
Et c'est vrai qu'on a les yeux rivés hein, sur ces fameuses régionales. On en oublierait donc presque les départementales. On va essayer de reposer rapidement, Pierre Juste, le cadre de ces différentes élections. Les régionales étaient prévues initialement en mars 2021. Pour les raisons sanitaires qu'on connaît, elles ont donc lieu à la fin de ce mois de juin. On élit qui élit? Vous allez nous dire tout ça. Les départementales, régionales. On élit donc les conseillers départementaux pour l'un, conseillers régionaux pour l'autre. Les conseillers départementaux, autrefois, on les appelait les conseillers généraux. Hein.
Alors exactement. Avant, ça s'appelait le conseil général. Alors encore avant, ça s'appelait le conseil départemental, sauf erreur de ma part. Donc en fait, on est revenu au nom finalement initial.
Éternel recommencement.
Voilà. Pour schématiser, en fait, on élit les conseillers départementaux et depuis 2013, il y a une loi qui est passée qui permet d'avoir ce qu'on appelle un scrutin binominal paritaire à 2 tours.
Hop.
Je vais vous expliquer ce que c'est. Ouais. En fait, ça paraît être un gros mot, mais en fait, une élection paritaire à 2 tours, ça c'est assez facile. C'est qu'il y a forcément un homme et une femme, enfin de manière paritaire. Ce n'est pas un scrutin de liste, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes par canton qui sont élues. Avant, si vous voulez, vous avez 2 fois plus de cantons et on a réduit à 2 fois moins de cantons. Par contre, on a gardé le même nombre de conseillers départementaux, ce qui fait qu'on en a, au lieu d'en avoir 1 par canton, on en a 2. Et de manière à finalement rendre les assemblées départementales paritaires, eh bien, on a obligé à ce qu'il y ait 2 noms, un homme, une femme.
Et donc, ça, c'est une obligation, hein, homme-femme.
C'est une obligation depuis 2013. Donc, on est obligé dans tous les départements finalement d'avoir une assemblée qui est totalement paritaire puisqu'on a forcément un homme, une femme élus dans chaque canton.
Et donc, ces conseillers départementaux sont élus pour 6 ans et ce sont eux qui ensuite vont élire le président du conseil départemental. Hein.
Exactement. Au sein de l'Assemblée, le président, il va y avoir plusieurs candidatures, sans doute, évidemment, avec les couleurs politiques que l'on connaît, qui vont se présenter, et ils vont pouvoir élire le président, leur président au sein de leur Assemblée, une fois que chaque canton aura élus ces deux conseillers départementaux.
Alors, vous me faites une transition toute trouvée. En tout cas, à vous qui nous écoutez, hein, le 20 juin, vous ne mettrez pas dans l'urne le nom du président du département, mais du possible candidat à la présidence du département. Et je crois qu'il en est de même pour les régionales. Hein. Vous allez nous redonner également le mode de scrutin et le suffrage.
Alors exactement, les régionales, c'est un peu différent, c'est un scrutin de liste. Donc là, on va élire une liste, il y a des listes par département, mais il y a une liste globale, évidemment, pour la région, portée par des candidatures que l'on connaît. Il y a 8 listes ou 9 listes, vous l'avez rappelé,
litres.
En Occitanie.
Ah bah,
8 listes, il me semble.
Peut-être que vous en avez une 9e, mais pour le moment, j'en étais resté à 8.
Je suis pas... Donc vous dites 8 listes, donc il y a 8 listes, effectivement, dans la région. Donc tout le monde connaît à peu près les chefs de file des listes, enfin les premiers noms sur la liste, mais il y a toute une liste, effectivement. Et là, c'est un mode de scrutin très particulier, puisque nous avons à la fois un scrutin, un système majoritaire, c'est-à-dire que celui qui fait la majorité des voix déjà au premier tour et au deuxième tour après peut avoir un certain nombre de deux conseillers départementaux sur cette liste, hein, dans l'ordre dans lequel les conseillers, enfin dans l'ordre dans lequel elle apparaît. Et puis il y a après une place à la proportionnelle dans les régions, qui fait qu'en fait après le calcul va se faire sur le restant des personnes qui sont sur les listes présentes qui vont pouvoir être élues à la proportionnelle. Mmh. Et donc c'est un scrutin un peu compliqué, mais y compris en termes de calcul. Et donc au deuxième tour, en principe il y a un deuxième tour, à moins qu'une liste fasse 50%, on va avoir ce calcul à la proportionnelle qui va être fait sur toutes les autres listes. Il y a des possibilités de fusion, contrairement au départemental. Alors j'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que du premier tour au deuxième tour, départemental par exemple, ne peut pas y avoir d'alliance. C'est-à-dire que les binômes, c'est vraiment ceux qui arrivent en tête à la fin qui ont gagné. Donc il peut y avoir un retrait au deuxième tour dans une famille politique ou une autre, mais il ne peut pas y avoir finalement de fusion. Alors que dans un scrutin de liste, pour les régionales ce sera le cas, il peut y avoir des fusions si la liste a fait plus de 5%.
À vous qui nous écoutez, je suis en compagnie de Pierre Juston, doctorant en droit public. On parle des élections. Oui, le sujet est passionnant. Restez avec nous. On va faire un petit détour par l'histoire, Pierre Juston, si vous voulez bien. Ça nous permettra peut-être d'expliquer, de comprendre les compétences de l'un et de l'autre, du département et de la région. Le département, je crois, relève d'un découpage très ancien. Ça remonte à la Révolution.
Exactement, le département, ça remonte à la Révolution française, on est en 1790, c'est l'échelon révolutionnaire par excellence. Pourquoi ? Parce que c'est un échelon qui est pensé de manière égalitaire, avec un découpage qu'on peut trouver finalement un peu arbitraire, un peu artificiel, mais c'est cette idée-là, d'une pertinence où, à l'époque, il fallait arriver d'un chef-lieu à un autre du département
en une
journée à cheval, exactement.
Ouais, ouais.
Voilà. Alors que, évidemment, la région, c'est pas le cas, on est plutôt dans les années 60, au début de la circonscription, et ça n'est qu'une circonscription de l'État. C'est-à-dire simplement, on découpe le territoire en régions au niveau des services déconcentrés de l'État, c'est-à-dire les préfectures, si vous voulez. Ensuite, il va y avoir un essor de la région avec ce qu'on appelle le principe de libre administration des collectivités territoriales qui concernait les autres collectivités, c'est-à-dire en gros avant le département et la mairie, et qui va concerner la région qui va avoir une certaine autonomie, c'est-à-dire un budget propre avec des projets qui peuvent être faits. C'est pour ça qu'il y a des élections pour les régionales depuis la loi de 82 de décembre.
Et alors restons 2 minutes sur le département si vous voulez bien. Une journée à cheval d'une préfecture à une autre, c'est l'échelon de la proximité au sens propre en réalité. Hein.
Exactement, les maîtres mots on va dire c'est égalité et proximité, où on découpe le territoire français. Alors à l'époque c'était 81 départements, puis ça a augmenté, puis ça a rediminué. Je compte là que les départements métropolitains. On en est aujourd'hui à 101 départements en tout, comptant les autres départements hors finalement du territoire métropolitain. Français. Et donc voilà, on est sur l'idée d'égalité, de proximité et de stabilité parce que ça fait longtemps que le département existe et qu'il y a des compétences qui sont bien ancrées.
Et pourquoi est-ce qu'on a rajouté donc ce nouvel échelon de la région ? C'était quoi l'intérêt de faire une somme de départements ? C'est quoi l'idée ?
Alors, la région, finalement, elle se compose de plusieurs départements, mais les deux collectivités n'ont rien à voir à proprement parler. Elles ont leur autonomie propre, c'est-à-dire qu'il y a des compétences différentes qui ont été envisagées. Il est vrai que la pertinence d'une journée à cheval d'un chef-lieu à un autre, c'est peut-être pas aujourd'hui d'une pertinence accrue. Alors, effectivement, ça permet quand même de conserver de la proximité avec des élus départementaux. Il y a un élu départemental pour plusieurs, évidemment, électeurs. Au niveau de la région, vous imaginez bien que le nombre d'élus, c'est beaucoup plus d'électeurs qu'il est censé représenter. Donc, il y a vraiment aussi une proximité pour le département. Pour les régions, en réalité, les compétences étaient plus dans le secteur économique.
On va les
plus...
donner, les compétences D'accord. de l'un et de l'autre, si vous voulez bien, d'ailleurs. Hein. La région garde l'économie, ce que n'a pas le département. Est-ce que vous pouvez nous brosser, justement, rapidement, les compétences dévolues au département, celles de la région, quelles sont-elles ?
Alors, en gros, la région, c'est essentiellement l'économie, mais il y a également tout ce qui va être au niveau naturel. Hein. Aujourd'hui, on en parle beaucoup au niveau écologique. Il va y avoir également une évolution des compétences en 2002 avec tout ce qui concerne le maritime, tout ce qui concerne l'aérien, les réserves naturelles, j'en parlais régionales, la qualité de l'air, etc. Il y en a énormément. Ensuite, au niveau du département, en fait, on a essentiellement des compétences sociales qui sont aujourd'hui axées sur quatre points. Donc, il y a l'aide sociale à l'enfance, il y a l'aide aux personnes en situation de handicap, il y a l'insertion.
C'est plus la solidarité, hein,
exactement.
Le département.
Et il y a après des compétences partagées, ça, vos auditeurs le comprendront très bien. Par exemple, alors je prends une autre collectivité, la commune va s'occuper des écoles primaires, ouais. Le département va s'occuper matériellement des collèges publics et la région va s'occuper des lycées.
Et alors, on peut difficilement, Pierre Juston, aborder cette question de départemental régional, même si nous sommes là pour essayer de comprendre et de l'utilité qui il y a d'aller se déplacer et d'aller mettre deux bulletins dans une de chacune des urnes, un bulletin dans chacune des urnes les 20 et 27 juin prochains. Quand on parle de région, de régional et de départemental, on ne peut pas s'empêcher de parler de la bisbille entre les deux. Et cette bisbille, elle est manifeste car on le voit, la région grignote petit à petit des compétences au département. C'est quoi la nature de cette querelle ?
Bah, en fait, si vous voulez, pour le dire très rapidement, mais il y a effectivement la question de la pertinence. Comme j'ai dit tout à l'heure, une journée à cheval d'un chef-lieu à un autre.
À l'heure du numérique, ça marche moins.
Bien sûr. Et aujourd'hui, des gens, par exemple, je vais prendre un exemple très concret, des gens qui habitent à Tarbes, ils viennent peut-être acheter des meubles à Ikea à Toulouse et dans la journée, ils en ont pour, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais ils en ont pour 4 heures, faire l'aller-retour, voilà. Donc évidemment, ce n'est plus pertinent, en tout cas, cet échelon pensé de cette manière-là. Par contre, c'est pertinent pour l'idée de proximité. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une demande. En tout cas des gens. Et évidemment, dans les villes, alors il y a beaucoup d'élus qui sont concentrés dans les villes, puisqu'il y a la région, en tout cas, sont présents, en tout cas en Occitanie, à la fois à Montpellier, à la fois à Toulouse, qui sont les deux grandes villes de la région. La mairie et la métropole, il y a des élus qui sont très présents. Par contre, dans le rural, je pense par exemple au Comminges, il y a évidemment des élus municipaux et des élus régionaux, mais il y en a beaucoup moins. Et là, les élus départementaux font vraiment l'idée du lien qu'il peut y avoir entre le rural, le périurbain et l'urbain. En tout cas, c'est la défense. C'est l'axe de défense des départementalistes par rapport aux régionalistes qui voudraient peut-être voir la disparition
des départements. On utilise ces terminologies départementalistes versus régionalistes. C'est quoi le sens de l'histoire ? Je disais, la région grignote. On va vers la disparition des départements, selon vous ?
En tout cas, certains aimeraient la disparition des départements, mais aujourd'hui, ils ne répondent pas à la question de savoir qui va pouvoir récupérer finalement toute l'aspect social. Donc, certains disent qu'il faudrait que les compétences soient partagées entre les métropoles ou les EPCI, c'est-à-dire les assemblages de villes, si vous voulez, y compris dans le rural et les régions, et d'autres disent non, il faut que le département, en tout cas, en restant concentré sur ces missions-là, fasse ce lien et ce lien entre les territoires très urbanisés et les territoires périurbains et ruraux.
Et parce que vous me disiez également en préparant cet entretien qu'à la concurrence des régions, les départements devaient également faire face à la concurrence des métropoles.
Oui, exactement. Et c'est particulièrement le cas à Toulouse, en tout cas en Occitanie ou même à Montpellier. Effectivement, les départements ont à faire face vis-à-vis d'un certain nombre de compétences à la pertinence de l'échelon métropolitain aujourd'hui qui sur les transports ou sur d'autres éléments commence un petit peu à grignoter effectivement les compétences du département. Mais encore une fois, aujourd'hui, le département reste concentré au moins sur ses missions sociales et de solidarité, et aujourd'hui personne ne récupère ces missions-là. De toute façon, ce sont des obligations de l'État, il y a des dotations de l'État. Le problème du département, et c'est là où son avenir est peut-être moins radieux, c'est qu'en termes financiers, avec la crise économique aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un effet ciseaux, qui fait qu'en fait, il a de moins en moins de budget propre par rapport à les initiatives qu'il peut lui-même mettre en œuvre, puisque sinon, s'il ne pouvait pas mettre en œuvre d'initiatives particulières, ça servirait à rien d'élire une majorité départementale. Si c'était seulement des compétences obligatoires de l'État, il ne pourrait pas mettre en œuvre de véritables politiques.
Et pourquoi de moins en moins de budget propre ?
Eh bien, parce qu'il y a cet effet ciseaux, justement, avec de moins en moins, finalement, enfin, de plus en plus de gens qui ont besoin de minima sociaux, le RSA, notamment le département qui doit y pourvoir. Et donc, évidemment, il a de moins en moins de budget propre parce qu'on est dans une crise économique et sociale et qu'aujourd'hui, effectivement, il doit utiliser de plus en plus ce budget-là pour ces compétences-là obligatoires qu'il est obligé de remplir, hein, sa rôle qu'il est obligé de remplir. Et en plus, il y a des dotations de l'État qui se réduisent de plus en plus.
Et ben voilà, vous êtes passionné, ça l'a rendu passionnant ce sujet. Merci beaucoup Pierre Juston pour toutes vos explications. D'un mot, s'il devait falloir convaincre nos auditeurs d'aller voter, qu'est-ce que vous diriez?
Je dirais que ce sont des élections de proximité, y compris pour les régionales, de manière totalement différente. Et il faut absolument que les électeurs aillent voter pour les départementales et les régionales. C'est pas des élections d'entre-deux, même s'ils sont plus attachés aux élections présidentielles et municipales. Il faut aussi aller voter, c'est important.
C'est important, ça c'est dit. Merci beaucoup Pierre Juston. Je rappelle que vous êtes doctorant en droit public à l'Université Toulouse 1 Capitole, où vous êtes également chargé d'enseignement. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir reçu.